Chapitre 39. Iris. C'est la première fois que je marche dans Paris pour une autre raison que me rendre au travail ou faire des courses. Je me promène, sans but, juste pour le plaisir. Je m'éloigne de mon refuge, je sors de ma zone de confort, et ça me file le tournis. Tous ces gens, tous ces visages, tous ces corps en mouvement. J'aimais tellement la foule, avant. J'aimais que ça bouge, que ça avance, que ça vive. Mes parents habitaient dans la banlieue lointaine de Bordeaux, une maison dans un lotissement entouré de vignes. Ma mère allait souvent en ville pour le travail. Je la suppliais de m'emmener, j'avais le sentiment de découvrir le monde. Ado, avec Mel, Marie et Gaëlle, on prenait le bus pour aller écouter des CD au Virgin Megastore de la place Gambetta avant de rejoindre la Victoire en descendant la rue Sainte-Catherine. On buvait un café chez Auguste, puis on repartait dans ce que l'on nommait notre cambrousse. Pendant mes études, j'ai vécu avec Mel dans un appartement derrière le cours Alsace-Lorraine. Grâce au simple vitrage de ma chambre, j'entendais les moteurs et les voix, comme si mon lit s'était trouvé sur le trottoir. Dès les premières nuits, j'ai pu abandonner les boules-caisses que je portais depuis des années. Le silence m'assourdissait plus que le bruit. Jérémy n'a pas grandi à La Rochelle. Il s'y est installé après avoir quitté sa Provence natale et essayé sans succès de s'acclimater à l'Aveyron, au Bas-Rhin et à la Loire-Atlantique. J'admirais sa liberté, qui contrastait avec mon incapacité à m'éloigner de mes proches. J'ai redouté le silence en m'installant chez lui. Sa maison était éloignée des lieux animés et ceinte d'une haute clôture en bois. Ma mère répétait souvent que la vie de couple était une succession de compromis. Je me suis dit que ce serait le premier. Je scrute les silhouettes. Je surveille les démarches. Je scanne les visages. La foule, hier amie, est devenue ennemie. Le danger se cache peut-être sous ce chapeau, ou derrière ce parapluie, dans cette voiture ou sur le trottoir d'en face. J'accélère le pas, je refuse d'opérer un demi-tour et de capituler. Je ne veux plus abandonner les rênes de ma vie à la peur. Il y a trop longtemps que je suis recroquevillée à l'intérieur de moi-même. Il y a trop longtemps que je marche à côté de ma vie. J'entre dans un parc, un panneau indique le square des Batignolles. Je m'assois sur le premier banc que je trouve et j'attends que mon cœur reprenne un rythme normal. Il y est presque quand je sens mon téléphone vibrer dans mon sac. L'écran indique un numéro que je ne connais pas. Seules ma mère, Jeanne et l'agence qui m'emploie ont mon numéro et les leurs sont enregistrés. Je laisse sonner en attendant que l'émetteur de l'appel tombe sur ma messagerie impersonnelle. Il rappelle aussitôt. Mon cœur a repris sa course folle. Je fixe l'écran, tétanisé. La sonnerie cesse et quelques secondes plus tard, une vibration m'informe qu'un message a été laissé. Dès le premier mot, la voix de mon interlocuteur fait fondre mon angoisse. Je le rappelle aussitôt. « Clément, c'est moi. »«
Comment tu vas ? Tu peux me dire la vérité. »
Pendant près d'une heure, je raconte tout à mon frère. Tout ce que je ne lui ai pas dit avant, pour ne pas l'inquiéter. Pour protéger Jérémy aussi. Je ne voulais pas qu'on puisse penser du mal de lui. Mon frère est l'une des seules personnes à n'avoir jamais émis le moindre doute sur lui. J'ai craint sa réaction lors de mon départ à La Rochelle, mais il m'a encouragée, peut-être pour m'éloigner du chagrin causé par la mort de notre père. Mille fois j'ai voulu l'appeler, mille fois je me suis ravisée. J'étais la grande sœur, celle qu'il défendait dans la cour de récré, celle qui le couvrait quand il faisait le mur, celle qui tremblait quand il ne rentrait pas. Je savais que, de son côté, il n'appellerait pas. Il communique essentiellement par message privé sur Instagram. J'ai installé l'application et créé un compte rien que pour le suivre. Clément est un voyageur. Petit, il s'endormait en admirant le globe terrestre branché à côté de son lit. À 18 ans, juste après avoir obtenu son bac sur insistance des parents, il est parti à la rencontre du monde. Sac à dos, meilleur ami, et c'est tout. Quand il est revenu un an plus tard, ma mère espérait que son désir de découverte serait assouvi, mais il n'en était qu'au préliminaire. Depuis 10 ans, je le vois plus souvent en photo qu'en vrai, mais son épanouissement traverse l'écran. Sur Instagram, plus de 100 000 abonnés attendent ses vidéos d'aurores boréales, de montagnes rousses, d'eau translucide ou de tempêtes de sable. Comment t'as eu mon numéro?
Maman.
Ne lui dis rien, d'accord?
Promis. Elle croit que tu as juste besoin d'un peu d'air, que ça va rentrer dans l'ordre. Mais ne tarde pas trop. Faudrait qu'elle sache qu'elle est mamie avant que ton enfant ait 20 ans.
Je lui parle de mon ventre, que j'arrive encore à cacher grâce à des sweats trois fois trop grands. De mes peurs quant à l'avenir de mon bébé. Les mots sortent en rafale. C'est la première personne à qui je peux me confier à ce sujet. Tout juste parviens-je à lui épargner le bulletin de santé de mon col de l'utérus. Il m'écoute patiemment, sans m'interrompre, si ce n'est pour rire ou s'émouvoir. L'entendre est doux, mais me rappelle amèrement que tous mes proches sont loin.
Je rentre en France dans 3 semaines. Je pourrais venir te voir?
Bien sûr.
Je ferai juste un petit détour par La Rochelle. J'ai des dents à faire valser.
Je ris avant de lui interdire de s'en mêler. J'ai perdu assez de gens dans cette histoire, Clément. Laisse-moi faire. Je vais régler ça.
Oh, en parlant de ça, j'allais oublier. J'ai reçu un message de Mel sur Insta. Elle m'a demandé ton nouveau numéro. C'est pour ça que j'ai demandé à maman si t'en avais changé. Je peux le lui donner ?